Même audio, une mémoire sonore.
Bonsoir, merci d'être là. Alors, Akram Belkaïd, qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir chez nous, et pas que chez nous, puisqu'il fait une tournée, il était à Perpignan hier soir, à Carcassonne avant-hier et à Montpellier demain. Je ne me suis pas trompé. Alors, c'est un journaliste algérien. Il a été chroniqueur au quotidien d'Oran jusqu'en 2021, où il publiait deux chroniques hebdomadaires, la chronique du blédard et la chronique de l'économie. Il a été jusqu'en mars de cette année le rédacteur en chef du Monde diplomatique, Diplo, où il est chargé du monde méditerranéen et du Moyen-Orient. Il a coordonné le Manière de voir que vous avez sur cette table pour la modeste somme de 8,50 €. Essayez d'avoir de la monnaie parce qu'on manque un peu de monnaie. Avec Angélique Mounier-Kuhn, et il a écrit de nombreux articles dans des Manières de voir précédents. Il fait partie du comité de lecture du site Orient 21. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et notes de recherche sur le Maghreb, l'Algérie, et il a publié un recueil de nouvelles, se déroulant dans le monde arabe, à la veille de l'invasion de l'Irak en mars 2003, qui s'appelle « Pleine lune sur Bagdad ». Et enfin, il tient également un blog intitulé « Ligne quotidienne ». Je ne me suis pas trompé ? Ça va ? Et il a écrit donc plusieurs livres, dont le dernier, « Chronique du Ramadan, voyage intimiste au cœur du jeûne », que vous avez également sur cette table pour 19,90 €. Donc, je laisse la parole à Akram pour son exposé sur Gaza.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci Dominique pour cette présentation. Merci aux amis du Monde Diplo et Branche Toulouse de m'avoir invité et d'avoir contribué à mettre en place cette tournée en Occitanie et dans le Sud-Ouest. Je voudrais juste donner une précision pour dire que dans les dates que tu as données, tu as parlé de Marmar. Donc le 13 mai, effectivement, vous aurez ici une conférence débat avec Marmar Kabir et Shervin Ahmadi sur l'Iran. Je précise que Marmar et Shervin sont un couple dans la vie de tous les jours. Et sont des deux journalistes et sont les directeurs, les responsables de l'édition du Monde diplomatique en persan. Ils sont tous les deux iraniens, d'origine iranienne, et connaissent bien l'Iran et ont cette particularité, contrairement à beaucoup de gens qui s'expriment à propos de l'Iran actuellement, d'avoir pu y aller et de continuer à y aller depuis longtemps, et ils y étaient encore au mois de janvier-février dernier. C'est vous dire à quel point, si jamais l'Iran vous intéresse, à quel point leur expertise et leurs connaissances peuvent vous être utiles. Ce sont vraiment des connaisseurs du monde persophone, l'Iran et ainsi que la géopolitique qu'on connaît tous, en tout cas de ces événements dramatiques que la région connaît. Alors, je suis là ce soir pour deux choses. La première, vous parler du Manière de voir sur Gaza, qui n'est plus aujourd'hui dans les kiosques, puisque le Manière de voir est un bimensuel et l'actuel est consacré aux questions de justice. Et le prochain, à partir du mois de mai, sera consacré au Canada. Mais il est disponible ici, mais il est aussi disponible sur la boutique. Et nous souhaitions, au niveau du monde diplomatique, faire un effort, je dirais, de présence et d'explication. Les gens de la rédaction, dont je fais partie, sommes régulièrement sollicités par les amis pour des conférences sur différents sujets, y compris sur le monde arabe et les tourments qui le concernent. Et donc, nous avons décidé d'accepter toutes les invitations des amis sur ce Manière de voir, pour pouvoir nous en expliquer et demander à ce qu'il y ait des relais à la fois dans la société, dans le lectorat, dans les, je dirais, dans les microcosmes divers et variés dans lesquels chacun évolue. Ce manière de voir, ce n'est pas simplement un magazine qui, une fois acheté et lu, peut être jeté ou remis au recyclage. Nous l'avons conçu, et je le dis en toute modestie, notre intention, peut-être qu'on n'y est pas arrivé, mais notre intention, nous l'avons conçu comme un document, comme quelque chose destiné à rester, à témoigner, à documenter ce à quoi nous assistons depuis maintenant plus de 2 ans, qui est un drame absolu et qui nécessite que, de manière récurrente, on rappelle que rien n'est réglé à Gaza, que ce qui se passe à Gaza est un scandale absolu. C'est un scandale humanitaire, c'est un scandale de justice internationale. Et donc nous avons voulu que le monde diplomatique, dont on connaît les positions sur la question palestinienne, prenne position à un moment, où, dans une conjoncture où on fait taire les gens, où on les empêche de s'exprimer, où on les empêche de manifester leur solidarité avec le peuple palestinien. Donc ce manière de voir, il est pour nous... dans une initiative de documentation, parce que on sent très bien l'intention, la tentation de plus en plus forte de mettre tout ça sous le boisseau, de faire comme si cette affaire était terminée, comme si le cessez-le-feu qui a été proclamé au mois à l'automne dernier avait tout réglé, alors que tous les jours des Gazaouis continuent de mourir, alors que le blocus est toujours là, alors que Israël occupe près de 60% de la bande de Gaza. Et qu'aucune des grandes réponses, aucune de réponse n'a été donnée aux grandes questions qui concernent les Palestiniens. Alors, ce manière de voir, on l'a bâti en 3, voire 4 parties. Il y en a 3 évidentes, apparentes dans la table des matières, dans le sommaire. La première concerne bien entendu Gaza, avec plusieurs articles sur l'emploi de la technologie, sur l'idée récurrente au sein des élites israéliennes sur la manière dont ils ont toujours rêvé, voulu, essayé, tenté de vider Gaza de ses habitants. Pourquoi Gaza a toujours constitué une espèce d'éléphant dans la pièce, dans l'imaginaire israélien en termes de démographie, par exemple. Et donc, il y a ces articles-là. On a le témoignage d'un collègue journaliste palestinien qui raconte son quotidien, ce qu'ont été ces 2 années, comment il a lui aussi documenté, pris des photos, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, les gens qui fouillent les décombres, qui cherchent les morts, la peur du drone, le fait de vivre en permanence avec ce bruit des drones au-dessus de vos têtes dont vous ne savez pas si ce sont des drones d'observation ou si ce sont des drones tueurs, etc. On a aussi un article de Mona Chollet sur la définition même qui est en train de s'imposer dans les esprits du terrorisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous entendez les justifications sur des bombardements de civils, on vous explique que, eh bien, ma foi, je vais prendre un cas, je vais élargir le propos ponctuellement sur le Liban. On nous explique que quand Nasrallah, le chef du Hezbollah, est tué, on sait que quand il a été tué, il y a plus d'une centaine au moins de civils qui sont morts. Et on nous explique que, en fait, ce n'était pas eux qui étaient visés, c'était Nasrallah. Et donc, on nous donne une définition qui est censée être acceptée par tous du dommage collatéral. C'est-à-dire que, ma foi, les civils, eh bien, c'est vrai, c'est terrible, mais dans la mesure où il y avait des cibles, eh bien, ça peut expliquer et donc excuser ce bombardement. On a eu la même chose avec ce café qui a été bombardé avec des civils qui sont morts, des Gazaouis, et où la presse, les médias français sont arrivés avec l'explication en disant, selon Israël, un haut responsable du Hamas était dans les lieux, et donc quoi? Et donc on excuse ce type de dévastation au prétexte qu'une cible était présente. Alors, il ne faut pas être naïf, ça c'est clair. On connaît, on sait que la guerre, les civils échappent rarement aux dégâts qu'impose et qu'inflige la guerre. Mais même dans la chose militaire, il y a des ratios, il y a des critères. On définit quel est le ratio acceptable pour la perte de civils dès lors qu'il y a un objectif militaire qui est visé. Les Alliés, pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient ces ratios-là. Mais là, ces ratios sont explosés. On n'a jamais vu une telle fréquence de bombardements visant des installations civiles au prétexte que des objectifs militaires étaient ou auraient pu être présents. Bien entendu, personne ne vérifie jamais si ce type d'objectif était présent ou pas. Donc on a cet article-là, c'est la première partie sur Gaza. La seconde partie, elle est consacrée à Israël, parce que c'est un pays qui se perd, qui est, en tout cas c'est notre avis, en totale déshérence, en totale déroute, qui a perdu le sens de l'humanité et dont on se demande où il va. Et on a un article de Gideon Lévy qui explique bien que, ma foi, la guerre est en train de constituer peut-être ce qui est le dernier ciment de la société israélienne, que vous avez, et ça fait d'ailleurs écho à un de ces articles dans le Monde Diplomate de ce mois-ci, du mois d'avril, où on voit bien qu'il y a un paradoxe absolument incroyable, c'est que vous avez un Premier ministre, Benjamin Netanyahou, qui est très impopulaire, qui a fait face à d'importantes manifestations destinées à le faire partir, puisqu'il voulait réformer la justice, il voulait amputer les pouvoirs de la Cour suprême. Mais ce même Premier ministre impopulaire, eh bien, dès lors qu'il déclenche une guerre contre l'Iran ou contre le Liban, il n'est pas populaire, mais il est soutenu. Et les projections par rapport aux élections législatives de 2026 donnent ce Premier ministre réélu. Et donc on se demande ce qui se passe au sein de cette société. Donc il y a une acceptation de la guerre, il y a beaucoup à dire sur cette question de l'acceptation de la guerre par la société israélienne, par le fait que vous avez une espèce de, je dirais, non pas disparition, parce qu'elle existe encore, mais elle demeure malheureusement marginale, de gens qui s'opposent, qui se dressent contre ce qui se passe. Il y a, par exemple, l'organisation B'Tselem, qui a publié, il n'y a pas très longtemps, un document terrible, au titre terrible en hébreu. Le titre, c'est « Notre génocide ». Mais ce sont des voix qui se perdent dans la clameur belliqueuse de toute une société qui est persuadée que le monde entier lui en veut, que le monde entier est antisémite et que donc il s'agit de serrer les rangs pour résister aux adversaires. Et la dernière partie, elle est liée à, je dirais, le contexte international, à ce qui fait que ce que nous avons vécu depuis 2 ans a été rendu possible et continue d'être rendu possible. Je vais peser mes mots. Ce à quoi nous avons assisté à Gaza, ce à quoi nous assistons encore, n'est pas une simple péripétie de relations internationales. On ne peut pas se dire que c'est une guerre parmi tant d'autres, et que, ma foi, on peut ne pas être d'accord les uns et les autres sur l'analyse de cet événement et donc passer à autre chose. Nous avons assisté depuis le mois d'octobre dernier, de 2023, à une entreprise génocidaire assumée, annoncée et mise en œuvre de manière systématique, automatique et planifiée. Alors, on peut perdre son temps à débattre sur l'usage du terme génocide ou pas. C'est ce qu'on pourrait appeler une fausse piste en réalité, parce qu'à la limite, on pourrait mettre de côté ce terme de génocide et s'attarder sur des expressions de type crime de guerre, crime contre l'humanité. Il y a plusieurs institutions, la liste s'allonge chaque mois, d'institutions internationales qui utilisent le terme de génocide, le met en avant. Je rappelle qu'il y a des mandats d'arrêt internationaux qui ont été émis contre des dirigeants israéliens et contre des dirigeants du Hamas, mais ceux-là sont morts, donc ces mandats sont éteints. Mais M. Netanyahou est réclamé et recherché par la justice internationale ce qui ne l'empêche pas de traverser tranquillement l'espace aérien français sans qu'il ne soit inquiété de la moindre manière. Et donc, pourquoi assiste-t-on à ça? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, on a, bien entendu, plusieurs facteurs qui convergent par rapport à ça. Il y a, je dirais, une complicité absolument énorme de pays occidentaux. Il y a des exceptions, bien entendu, l'Espagne, la Slovénie, l'Irlande, mais la majorité des pays occidentaux ont décidé de fermer l'œil et de laisser faire, au-delà des discours, au-delà des déclarations de préoccupation, au-delà des déclarations d'inquiétude, etc. La réalité, c'est qu'ils continuent à laisser faire. Certains continuent même à livrer des armes. Il y a un monde arabe qui est totalement complice. Et ça, c'est la grande nouveauté de ces 10 ou 20 ou 30 dernières années, c'est que le monde arabe a abandonné les Palestiniens. Au-delà des grandes déclarations de solidarité, d'aide, etc., en réalité, on voit très bien qu'avec les processus de normalisation qui soient explicites, comme par exemple les accords Abraham, qui ont fait que des pays comme le Maroc, les Émirats arabes unis, Bahreïn, même le Soudan, ont normalisé les relations avec Israël. Et puis vous en avez d'autres qui ont normalisé de manière plus ou moins implicite, je pense notamment à l'Arabie Saoudite, avec des contacts plus ou moins officieux. Mais en tous les cas, ça a fendu cette position qui consistait, et qui est encore d'ailleurs, c'est paradoxal, la position officielle des pays membres de la Ligue arabe, qui consiste à dire, telle qu'elle a été établie en 2002, qui consiste à dire la paix contre la restitution des territoires. Ce discours-là, il a été jeté à la poubelle. Aujourd'hui, les gens normalisent et plus personne ne se... Dans le monde arabe, je ne parle pas des peuples, hein, je parle des dirigeants, des régimes. Ils ont donné leur feu vert à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Leurs protestations ont été très peu entendues. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ce sont des pays tiers qui ont entamé les démarches pour confronter Israël à ces crimes. Je pense notamment à l'Afrique du Sud, qui a été l'un des premiers pays à réagir et à saisir la Cour pénale internationale. Alors, dans tout ça, il y a aussi tout de même des choses, des transformations. Et c'est sur ça qu'on revient aussi au niveau du manière de voir, sur l'évolution de la communauté juive aux États-Unis qui évolue, notamment la jeunesse qui prend ses distances par rapport à Israël, qui refuse de soutenir ce qui se passe à Gaza. Et c'est une évolution qui est très intéressante parce que elle signifie que le personnel politique américain va être obligé d'en tenir compte. Parce que jusqu'à présent, quand vous étiez candidat, et surtout candidat à une élection sous l'étiquette du Parti démocrate, vous deviez, d'une manière ou d'une autre, clamer votre soutien pour Israël, promettre que vous serez le premier soutien à Israël. Aujourd'hui, on voit des hommes politiques américains, des élus notamment du Congrès, qui prennent leur distance avec l'AIPAC, qui est l'une des premières organisations de soutien à Israël, de lobbying politique auprès des élus au Capitole à Washington. Et donc ça, c'est une tendance qui n'est pas négligeable, qu'il faut continuer à suivre. Est-ce que ça veut dire que les États-Unis vont demain évoluer et changer de position? Ça, personne ne peut se risquer à le promettre, ou en tout cas à le prédire. Mais il y a ce mouvement qui est paradoxalement... Vous avez une convergence avec un autre pan de la vie politique américaine qui est une des bases, en tout cas une composante de la base de Donald Trump, une composante du mouvement MAGA, Make America Great Again, qui aujourd'hui est aussi vent debout contre l'alignement américain sur les positions et les initiatives israéliennes, notamment la guerre en Iran, le déclenchement de la guerre contre l'Iran. C'est pas un hasard de voir... Un influenceur, parce que maintenant il se présente comme journaliste, mais il est plus influenceur, comme Tucker Carlson, qui est quelqu'un qui vient de la droite extrême, voire de l'extrême droite américaine, qui était à Fox News, qui avait un discours très 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 pro-israélien pendant très longtemps et très très critique à l'encontre du monde arabe, et qui aujourd'hui, dont tous les podcasts aujourd'hui sont dédiés à tirer à boulet rouge sur le fait qu'Israël dicte sa loi aux États-Unis, les entraîne dans des conflits qui ne concernent pas les États-Unis, qui ne concernent pas les intérêts américains et qui sont même dommageables aux intérêts américains. Donc vous avez ce contexte-là qui fait que bon, on a encore aujourd'hui des motifs de réflexion et de se dire que tout n'est pas univoque et que, je dirais, l'impunité totale dont jouit Israël jusqu'à présent pourrait à terme être remise en cause si la première puissance mondiale évolue d'une certaine manière sur ces questions-là. Bon, vous me direz, et là je passe à la deuxième partie de mon intervention, vous me direz, ça fait une belle jambe aux Palestiniens, puisque aujourd'hui, Gaza, il y a une situation absolument terrifiante. C'est-à-dire que on est dans l'équivalent d'un département français qui a été, je dirais, pulvérisé à près de 70-80%, où toutes les terres arables ont pratiquement été détruites, les infrastructures ont été détruites. Avec le manière de voir, on a mis à disposition sur le site du Monde diplomatique une carte interactive qui montre l'évolution des dégâts et de la situation de la bande de Gaza, sachant que, comme je vous l'ai dit, la bande est contrôlée à 60% par l'armée israélienne, qui n'a pas, semble-t-il, l'intention de partir, et on est dans le flou total concernant la reconstruction. Alors, officiellement, il y a un Conseil pour la paix créé par Donald Trump, qui n'est rien d'autre qu'une institution concurrente des Nations Unies, parce que normalement, c'est aux Nations Unies de prendre ce type de dossier en main. Mais là, les États-Unis, comme Israël, ne veulent absolument pas que ce soit l'ONU et encore moins l'UNRWA qui s'occupe de ces questions-là. Donc, on a ce Conseil de la paix qui est censé déployer une stratégie de reconstruction. Donc, on a un diplomate bulgare qui s'agite beaucoup, qui fait des déclarations, et on nous fait croire qu'en fait, si rien ne se passe et si rien n'avance, c'est parce que le Hamas, toujours lui, refuse de désarmer. Une remarque concernant ce plan de reconstruction, et il y en a encore 8 ou 9 plus ou moins présentés par d'autres pays. Ce plan, puisque c'est le premier, c'est celui dont on parle le plus, et qui est susceptible de faire redémarrer les hostilités si effectivement le Hamas refuse de livrer son matériel militaire, il est intéressant de voir que c'est un plan de reconstruction qui n'a en rien demandé aux Palestiniens leur avis. On est assez étonné de ça, c'est-à-dire que vous avez... on ne demande pas aux Palestiniens ce qu'ils pensent, ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils voudraient. On décide à leur place. Et il y a avec des impensés qui perdurent et des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Parmi les questions auxquelles on n'a pas de réponse, il y en a une qui est fondamentale, c'est est-ce qu'on a envie que les Gazaouis restent à Gaza ou pas ? Et ça, c'est quand même vraiment la clé du problème. Parce que dans les discours... on a le chaud et le froid. On a ceux qui nous disent « Ah ben, ils vont rester, on va leur offrir des havres de développement, des nouvelles cités, etc. » Et puis, d'autre côté, on dit « Mais ils sont... s'ils souhaitent partir ailleurs, eh bien, c'est leur liberté, on ne peut pas leur reprocher de partir. » Et donc, on sait que on a, pendant la guerre et même après, on a eu des déclarations récurrentes de dirigeants israéliens, de responsables israéliens qui disent que Gaza doit être annexé et que les Palestiniens doivent partir. Les gens de Gaza doivent partir. Mais ils vont partir où ? L'Égypte a fait savoir que le Sinaï, pas question. La Jordanie a fait savoir que son territoire, pas question. Alors il y a bien des États croupions qui se sont dit on va faire un peu d'argent et un peu de reconnaissance internationale en les acceptant. Je pense notamment au Somaliland, qui s'est dépêché de dire « Nous, on est prêts à accepter des Palestiniens ». Sauf que quand vous regardez sur le terrain, il y a des Palestiniens, par exemple, qui sont sortis de Gaza, qui sont allés en Égypte pour soignés, et qui aujourd'hui demandent à revenir à Gaza. C'est-à-dire que les Gazaouis font clairement savoir à qui veut les entendre qu'eux veulent rester à Gaza. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'entend pas suffisamment, mais on n'a pas suffisamment aussi de gens qui confrontent les Israéliens sur « mais qu'est-ce que vous voulez faire de la population de Gaza ?» On est dans une espèce de discours martial qui consiste à dire « on va annexer, on va faire le grand Israël, on va, parce que le grand Israël, ça veut dire aussi une partie du Liban, ça veut dire aussi l'annexion définitive du Golan syrien. Ça veut peut-être dire demain prendre un bout de la Syrie, un bout de l'Irak au nom, puisque Abraham venant d'Irak, eh bien, c'est une terre biblique, donc il faut l'annexer. Et puis, il y a la question du Sinaï égyptien, puisque vous avez les mêmes gens qui revendiquaient l'annexion de Gaza, l'annihilation de... la destruction des Palestiniens de Gaza, ces mêmes gens aujourd'hui, lesquels ont instauré la peine de mort pour les Palestiniens, ces mêmes gens sont entourés de gens qui revendiquent la reprise du Sinaï et le retour des colonies, parce que je rappelle qu'il y a eu des colonies israéliennes dans le Sinaï jusqu'à la conclusion des accords de Camp David entre Sadat et Begin à la fin des années 70. Et donc on est dans cette situation-là, c'est-à-dire que rien n'est réglé. Rien n'est réglé et rien n'est réglé en Cisjordanie. C'est-à-dire qu'on a tous été focalisés sur Gaza. Aujourd'hui, on en parle moins parce qu'il y a d'autres actualités. Mais on a bien vu que pendant la guerre à Gaza, vous aviez des mouvements de violence incroyables à l'encontre des Palestiniens, des villages palestiniens abandonnés, des colons déchaînés dans la violence et jouissant d'une impunité totale, puisque soutenus et protégés par l'armée. On a eu des pogroms contre des villages palestiniens isolés. On a eu des gens à Jénine qui ont été forcés de quitter leur maison. On a à peu près, on évalue à 40 000 le nombre de Palestiniens déplacés, ce qui en soi constitue un crime de guerre, puisqu'Israël est une, en tout cas au sens du droit international, est une puissance occupante en Cisjordanie. On a des menaces récurrentes à l'encontre des villages dans la région d'Hébron. Et donc, on se dit, mais jusqu'où ça va aller? Que veut ce pouvoir israélien? Est-ce qu'il veut une nouvelle Nakba? Est-ce qu'il pense qu'il a les moyens, et se disant que, vu que la communauté internationale ne réagit pas, qu'il a les moyens d'expulser, de constituer, de procéder à une nouvelle grande expulsion, et qu'importe où les gens iront, ils se débrouilleront avec les Libanais, avec les Égyptiens ou les Syriens. Ou alors, est-ce que ce régime, finalement, ne sait pas où il va, la guerre étant son seul credo, et concernant les Palestiniens, il y a finalement une intériorisation de l'idée d'apartheid, c'est-à-dire d'avoir finalement un seul pays, qui est Israël, puisque... On ne va pas se mentir, on voit mal comment la Palestine pourrait exister, ne serait-ce que, je dirais, de manière concrète, vu le morcellement de la Cisjordanie, vu le morcellement de Gaza. Et donc, on va arriver à une situation où on aura un pays et puis une population qui sera dans le déni de ses droits. Ça peut choquer les uns, mais j'ai l'impression, parfois, au vu des déclarations des responsables israéliens, qu'ils considèrent que ça peut être une situation durable, qu'on peut avoir à disposition un peuple qui serait finalement autorisé à rester sur cette terre à condition qu'il accepte de ne pas revendiquer des droits égaux à l'autre population qui habite ce pays. Et ça, vous le devinez, c'est la porte ouverte à des drames à venir qui sont incommensurables, qui sont infinis. On risque d'avoir encore de nouveau 7 octobre suivi de réactions comparables à des 7 octobre. Aujourd'hui, en Cisjordanie, les gens ont peur, les gens se tairent, font attention, mais tôt ou tard, il va y avoir le peuple palestinien, tôt ou tard, il y aura, en tout cas en son sein, des gens qui vont penser que la violence est le seul moyen de s'en sortir et que, perdu pour perdu, il faut réagir. Et on sait qu'à ce moment-là, la réaction risque d'être terrible et on passera de drame en drame. Tout ça pour vous dire que nous, au niveau du monde diplomatique, on est très inquiets par rapport à l'évolution de la situation. Je n'ai pas du tout évoqué la question iranienne, on pourra le faire pendant les questions et les réponses, mais on est vraiment très inquiets par rapport à la situation palestinienne, parce qu'on trouve que jamais il n'y a eu autant d'ingrédients en faveur d'une nouvelle Nakba, d'une nouvelle catastrophe. Gaza, en soi, est une nouvelle catastrophe. Et donc, comment ça va évoluer, comment le peuple palestinien va être restauré dans ses droits, c'est une question qui est posée, qui est encore sur la table. Et bon, moi, j'ai pas de réponse, mais en tous les cas, nous, notre travail, ça va continuer d'être d'analyser ça, d'essayer d'informer, et surtout, et je terminerai par ça, et surtout de rompre avec le conformisme médiatique ambiant qui fait qu'on considère que finalement, ce qui se passe au Proche-Orient est normal, qu'Israël a le droit de se défendre, que l'armée d'Israël est la plus morale du monde, qu'Israël est une démocratie. Et donc, si vous ne vous inscrivez pas dans cette grille d'analyse, c'est que vous êtes un dangereux complice du Hamas ou que sais-je encore. Eh bien, nous, on refuse cette manière de voir les choses. Ça nous vaut un ostracisme, ça nous vaut le fait que quand le manière de voir sur Gaza sort, on n'a pas la moindre référence dans la moindre revue de presse. Quand dans le numéro de ce mois-ci, du mois d'avril, on a un article rédigé par Pedro Sanchez, qui n'est pas quand même n'importe qui est Premier ministre de l'Espagne, qui est un pays qui joue un rôle important en ce moment, eh bien, il y a un silence qui entoure sa contribution. Que quand Mme Albanese répond à ses détracteurs dans un article de 2 pages dans le Monde diplomatique du mois de mars, et dont on a mis à disposition quelques exemplaires, eh bien, là aussi, il n'y a même pas une dépêche qui reprend le minimum de ce qu'elle peut raconter, parce qu'il y a une volonté aujourd'hui de faire taire les voix qui défendent en tout cas le droit international. Je ne dis même pas qu'ils défendent les Palestiniens, qui défendent le droit international. Et conclusion, la réunion que nous tenons aujourd'hui, eh bien, je ne sais pas si nous pourrons la tenir dans quelques semaines ou dans quelques mois, parce que s'il y a l'adoption de ce fameux projet de loi Yadan, la liberté d'expression sur cette question sera absolument menacée et obligera les intervenants à faire très attention à ce qu'ils disent pour ne pas se retrouver embarqués dans des cycles judiciaires sans fin. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour continuer le débat. Merci.
Même audio, une mémoire sonore.
Bon, pour avancer le débat, je vais te poser une première question. Tu parlais de liberté éditoriale. Le monde diplomatique a une position courageuse, justement, dans le grand silence du reste de la presse. Est-ce que les journalistes font l'objet de pression? Est-ce que la direction fait l'objet de pression? Est-ce que l'autonomie financière du diplo l'immunise contre toute menace du groupe Le Monde? Enfin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça?
Bon, alors première chose, c'est important de le dire, on n'est tout de même pas les seuls. Je voudrais rendre hommage à... Il y a beaucoup de titres, je pense notamment au quotidien L'Humanité, je pense au site internet Orient 21, je pense à beaucoup de sites qui, eux, sont présents sur cette même ligne et qui ne se laissent pas faire. Mais il est vrai qu'une grande partie de la presse généraliste, et plus encore les médias audiovisuels, sont absolument infects sur cette question. Alors, le monde diplo, nous, on a notre indépendance éditoriale qui est garantie par notre structure. Alors, ça me permet de... On est détenu à 51% par le groupe Le Monde, mais on a cette particularité d'avoir 2 autres actionnaires. L'un des actionnaires, c'est l'Association des Amis du Monde Diplo, Et les autres actionnaires, c'est une association qui regroupe le personnel du monde diplomatique. Alors, selon nos statuts, c'est le personnel du monde diplomatique qui élit son directeur. C'est-à-dire, ce n'est pas l'actionnaire principal, donc le monde, qui nous dit félicitations, votre nouveau directeur, c'est X ou Y. C'est nous-mêmes qui élisons en notre sein un directeur. Donc ça a été Ignacio Ramonet, ensuite il y a eu Serge Halimi, aujourd'hui c'est Benoît Bréville. Donc ce sont des journalistes. La seule chose que le groupe Le Monde, en tant qu'actionnaire, peut faire, c'est qu'il peut refuser d'entériner la candidature, mais il ne peut pas en imposer. C'est-à-dire que ça nous obligerait à revoter pour quelqu'un d'autre. Mais ça ne s'est jamais produit. Et je dois dire que nous avons zéro pression de la part du groupe. Nous avons zéro pression de la part du groupe. Nous sommes à l'équilibre financier, donc ça permet d'être à l'aise. Donc quand vous devez, dans un conseil de surveillance, ou quand vous rencontrez votre actionnaire principal et que vos comptes sont propres et positifs, et que vous n'êtes pas là pour demander de l'argent pour survivre, eh bien, ça vous donne une position de force. C'est ce qui fait que nous avons régulièrement besoin de nous adresser à nos lecteurs, non pas pour qu'ils nous donnent de l'argent, mais pour qu'ils fassent connaître Le Monde Diplo, pour qu'ils fassent connaître, qu'ils agissent en termes de notoriété, notamment auprès des jeunes, de gens qui ne nous connaissent pas, de jeunes dans la catégorie 30-40 ans, qui rentrent dans la vie professionnelle et qui ne sont pas forcément des gens qui ont grandi dans des milieux où on avait l'habitude de lire le diplôme, etc. Donc de ce côté-là, on n'a pas. Sur le reste, oui, on a de temps en temps, bien entendu, on a des injures, des courriels de menaces, des gens qui nous traitent d'antisémites, on est des islamo-gauchistes, on est des vendus à la Russie, on est... Bon, ça, c'est vraiment à l'image du débat public aujourd'hui, mais nous, ça ne nous empêche pas de continuer à produire, parce que c'est ça qui est important, et d'être rigoureux dans ce qu'on produit. C'est-à-dire que nous, notre je dirais, obsession, c'est vraiment de produire quelque chose de rigoureux et de surtout pas nous laisser entraîner dans, la voie de l'imprécision, de l'ambiguïté, du discours ambigu. On sait très bien et on le rappelle de manière... On a d'ailleurs consacré un manière de voir à ça il y a un an et demi. On sait très bien que la cause palestinienne, c'est une occasion rêvée pour beaucoup d'antisémites. Mais il tient à chacun d'être suffisamment vigilant pour ne pas s'acoquiner avec ces gens-là. Je vous parlais tout à l'heure de Tucker Carlson. C'est voir quelqu'un d'extrême droite critiquer Israël, etc. Pour moi, c'est pas franchement une bonne nouvelle pour les Palestiniens. Donc, on est très vigilant sur ces questions-là. On fait très attention dans nos analyses de ne pas nous les entraîner justement dans Édouard Saïd appelait le danger qui guette toute personne qui voudrait et qui clame justice pour les Palestiniens. C'est un travail, je dirais, qui demande beaucoup d'énergie et qui fait qu'on est, y compris sur le choix de certains sujets. Donc nous, moi, j'ai pas de problème, par exemple, à dire que les attaques du 7 octobre, il y a eu des crimes de guerre qui ont été commis. On n'attaque pas impunément des populations civiles ainsi. Donc on le dit, il n'y a aucun souci par rapport à ça. La fameuse phrase, injonction sur « condamnez-vous le Hamas ». Simplement, nous, on dit que l'histoire, elle ne commence pas au 7 octobre. Elle commence bien plus tôt. Elle commence dans les années, la fin du 19e. On a encouragé nos lecteurs à aller voir le film de Anne-Marie Jassy en 1936. Enfin, il y a tellement de choses sur la question palestinienne qui demeure encore aujourd'hui inconnue en France qu'on estime que le débat n'est jamais mené dans des conditions suffisamment sereines pour donner quelque chose de bon.
Des interventions, des questions ?
Bonjour. En dehors du fait qu'on sait que les Israéliens soutiennent effectivement cette guerre contre Gaza, qu'est-ce que vous savez de la situation réelle en Israël ? Je parle notamment de la situation économique. On dit qu'il y a énormément de dépôts de bilan d'entreprises puisque l'activité est totalement restreinte du fait que beaucoup partent à la guerre. Beaucoup de jeunes israéliens partent à la guerre, donc ne peuvent pas travailler, effectivement. On sait aussi qu'il y a beaucoup de départs de gens d'un certain niveau qui ont quitté Israël. Et puis, il y a eu les bombardements iraniens, parce que ce qui est très surprenant, enfin, c'est pas surprenant, mais bon. Les médias ne nous parlent absolument pas des dégâts et des dommages qu'ont pu causer ces bombardements. On a l'impression qu'Israël ne subit rien et que la population, elle est immuable et qu'elle n'a pas de problème par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en savez exactement ?
Alors, on a plusieurs reportages qui sont en cours. On a eu Sylvain Sipel qui est parti en Israël l'été dernier, qui a raconté un peu ce qui... Alors, pour résumer, vous avez raison, il y a des départs, mais je rappelle que le chiffre officiel n'est pas connu, puisque, alors je ne dis pas que c'est un secret, mais en tout cas, le gouvernement israélien ne communique pas là-dessus. Des journalistes, des confrères de Haaretz annoncent à peu près 200 000 départs de gens qui partent de manière définitive, refaire leur vie ailleurs, estimant qu'il n'y a plus d'avenir pour eux dans ce pays-là. Et vous avez raison, ce sont souvent des gens qui ont des profils internationaux, des gens capables de travailler dans telle ou telle industrie, notamment dans la technologie. Sur la question économique, l'économie israélienne prend cher avec ces deux dernières années. Certes, il y a l'aide américaine, il y a énormément de lignes budgétaires que le Congrès américain a débloquées, mais dans le même temps, l'activité, elle est atonique. Il y a des entreprises qui font faillite. Il y a un problème de main-d'œuvre, d'encadrement. Et il y a aussi une problématique, je dirais, qui est liée au caractère inégalitaire de la société israélienne. La société israélienne est confrontée et est bâtie dans un modèle ultra-libéral avec énormément d'inégalités. Ça ne coince pas en temps de paix, ça coince dès lors que vous êtes confronté à un choc exogène, et le choc exogène, c'est Gaza, c'est la guerre avec le Liban, c'est les roquettes qui tombent et qui obligent l'activité à s'arrêter, c'est les missiles iraniens qui sont tirés, et donc vous avez un pays qui est aujourd'hui en situation de crise. Sauf que dans une situation de guerre, vous avez pour le moment un consensus entre les forces politiques pour ne pas en faire porter la responsabilité au gouvernement israélien. Je rappelle que par rapport aux attaques du 7 octobre, on n'a toujours pas une commission d'enquête qui a été mise en place. C'est-à-dire que ce consensus-là, il va jusqu'à admettre l'idée qu'il faut attendre encore, qu'il faut différer. Il y a des arguties juridiques, il y a un processus. En tous les cas, pour le moment, c'est pas fait. Et sur les informations, je rebondis sur ce que vous dites. Charles Anderlin, dans un message sur les réseaux sociaux, sur X, l'ex-Twitter, a rappelé quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment en France ou qu'on ne dit quasiment pas. L'information en Israël est soumise à la censure militaire. Et ça, on ne le dit pas. On a l'impression qu'on a toutes les informations. Or, les destructions, les attaques, les cibles, le bilan, etc., sont soumis à la censure militaire israélienne. Ça vaut pour les journalistes israéliens, et puis ça vaut pour la presse étrangère qui est un peu sur place, en termes qui joue son accréditation si elle ne respecte pas cette censure. Et je ne parle même pas de Gaza, où il n'y a toujours pas l'autorisation pour les confrères, pour la presse étrangère, d'accéder à Gaza. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en avril 2026, on n'a même pas les moyens d'aller interviewer des gens sur place pour leur demander comment simplement ils ont vécu depuis le mois d'octobre 2023. On le fait avec Internet, etc., mais la constatation, je dirais, des dégâts infligés à Gaza, de visu, est quasiment impossible, sauf à accepter d'être dans des visites où vous êtes encadré, ce que beaucoup de journalistes refusent, parce que c'est une manière de contrôler leur travail.
Oui, bonjour. Je voudrais savoir ce qu'il en est de l'interdiction de plus d'une trentaine d'organisations humanitaires dont MSF à Gaza.
Alors, c'est un dossier que j'ai un peu négligé ces derniers temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des recours qui ont été formés, qu'il y a des institutions en Israël qui ont suspendu cette interdiction, mais que le processus suit son cours. C'est-à-dire que toutes ces associations, toutes ces ONG sont sous le coup d'une interdiction définitive. Mais en même temps, il faut bien savoir que c'est pour ça que c'est totalement, je dirais, aberrant, parce que cette interdiction, il y a aussi des interdictions de fait. Il faut savoir dans quelles conditions ces ONG pouvaient travailler, le nombre d'obstacles qu'on pouvait leur mettre, le nombre de, je dirais, d'embûches pour leur propre fonctionnement normal. Donc c'était déjà très difficile, ça allait encore plus, et effectivement, on en arrive à une situation où ça s'arrête. Là où il y a des choses aussi à raconter, c'est que on a vu apparaître soudainement des organisations humanitaires, soi-disant qui allaient travailler à Gaza, notamment pour la distribution d'aide alimentaire, etc. Et tout. On a bien vu que c'était des faunées destinées à conforter la propagande pro-israélienne. Et d'ailleurs, un grand nombre de ces ONG ont totalement disparu. C'est intenable quand vous êtes dans une telle situation, si vous n'avez pas le savoir-faire, si vous n'avez pas l'engagement de vos propres employés, vous arrêtez très vite, et c'est ce qui s'est passé notamment pour la distribution de l'aide alimentaire en provenance des pays étrangers, notamment occidentaux.
Oui, bonsoir. Voilà. Donc en fait, premièrement, vous avez parlé de Tucker Carlson, que c'est pas une bonne nouvelle. Moi, j'ai l'impression que ça montre en fait un changement de mentalité, un changement de soutien dans la société. Oh, ok. Pardon. C'est mieux ? Ok. Oui, première question au sujet de Tucker Carlson. Donc, vous avez été assez catégorique. Bon, vous considérez que ce n'est pas une bonne nouvelle, le fait qu'il est. C'est quand même un soutien de base très fort à Donald Trump et à l'extrême droite, effectivement, à la droite en tout cas. Et je me dis qu'en fait, sa position, comme celle de Candace Owens et comme d'autres, en fait, est-ce que ça ne montre pas un changement de mentalité dans les populations ? Est-ce que ce n'est pas important, justement, pour la cause palestinienne, qu'en fait, il y a des gens comme ça qui, effectivement, donnent l'impression qu'on tourne leur veste, mais qui montrent en fait une certaine lassitude, et puis finalement, quelque chose qui deviendrait audible dans la société américaine au sujet de la cause palestinienne, puisque, historiquement, la société américaine n'a jamais été pénétrée par une quelconque empathie envers la cause palestinienne, premièrement. Deuxièmement, j'aimerais parler de l'Iran. Alors là, c'est une question qui m'a fait venir des amis qui sont actuellement en Palestine, des amis palestiniens qui sont là-bas, qui n'ont pas beaucoup d'espoir dans ce qui se passe par rapport à l'Iran, parce qu'ils me disent qu'en fait, en vrai, l'Iran n'a pas touché de structure qui fasse réellement mal en fait à Tel Aviv ou en tout cas en Israël, et que l'inverse se vérifie. Et ils ont été largement pénétrés par les services secrets donc israéliens, américains, en tout cas sionistes. Et c'est vrai que dans les négociations, la Palestine est complètement absente, en fait. Alors qu'on sait que l'Iran, comme la Syrie avant le changement de régime, étaient des soutiens de la Palestine. En fait, voilà. Je voulais savoir ce que vous en pensiez.
D'accord. Okay. Alors, vous avez raison. J'ai du mal à me réjouir de changement d'attitude de Tucker Carlson et compagnie, parce que ces gens-là, pour avoir suivi l'actualité américaine pendant très longtemps, je ne vais pas vous dire que je les détestais, mais je ne pouvais pas les supporter. Ils sortaient d'eux une espèce de racisme, de conviction que nous étions dans le choc des civilisations, etc. Que les voir soudainement changer d'avis, moi, je demande à voir. C'est des gens dont je ne pense pas qu'ils aient changé d'avis sur d'autres questions, sur le rapport aux migrants, sur le rapport aux pays du Sud, sur le rapport ou même sur le rôle que leur pays doit jouer. Ils ont encore un discours messianique sur les États-Unis, les valeurs de l'Amérique, etc. Mais effectivement, vous avez raison. Ce qui est intéressant, c'est cette... Mais alors, j'aurais peut-être dû parler de d'autres grands spécialistes, ce qu'on appelle l'école réaliste des relations internationales, Mersheimer, par exemple, qui est quelqu'un qui a écrit pour nous, qui, lui, n'est pas du tout dans la même catégorie que les Tucker Carlson, etc., qui sont des gens qui ont des idées très arrêtées, qui sont assez conservatrices, hein, qui... pour eux, quand on leur explique que le monde diplomatique défendait la taxe Tobin et des choses comme ça, ils sont un peu, ça les fait rire parce que c'est pas du tout leur école. Mais en même temps, ils voient bien que sur les relations internationales, sur l'avenir des États-Unis, l'idée qu'il faut que leur pays s'aligne de manière systématique sur ce que fait Israël, ils l'acceptent pas. Ils l'acceptent pas. Et effectivement, il y a une vraie mutation à laquelle on assiste aux États-Unis, qu'on voit peu ailleurs, y compris en France. En France, on a encore beaucoup de gens qui sont persuadés qu'Israël est le pôle avancé de la civilisation occidentale en Orient, qu'il faut l'aider, etc. etc. Et donc on a du mal à avoir, il n'y a qu'à voir les discours de notre ambiant dans la classe politique française. Mais oui, vous avez raison, il se passe quelque chose aux États-Unis, c'est pas négligeable, mais alors il faut tout de même dire que chez les évangéliques, qui sont le principal soutien d'Israël, ça ne change pas beaucoup. Tucker Carlson n'est pas un évangélique. C'est plutôt la droite extrême du Parti républicain, mais les évangéliques qui pensent qu'Israël est la première brique permettant le retour du Messie sur Terre, ceux-là, ils continuent à soutenir Israël. Ceux-là sont encore persuadés qu'on est dans un gigantesque choc entre le monde chrétien et l'islam. Et donc, même Netanyahou l'a dit il y a quelques années, avant même le 7 octobre, Netanyahou avait dit « les Juifs américains vont nous lâcher ». C'était dans une discussion, je dirais, informelle avec des représentants d'organisations sionistes. Mais tant qu'on a le soutien des évangéliques américains, qui sont bien plus nombreux, bien plus organisés, ça continuera pour nous de peser, parce que ça veut dire une grande partie du vote républicain, du parti républicain. Sur l'Iran, c'est clair qu'il y a des leçons à tirer de tout ce que nous avons, ce à quoi nous avons assisté au cours des dernières années et des derniers mois. On a vu deux choses, à la fois sur l'Iran et le Hezbollah libanais. On a vu tout de même que ces deux entités, ces deux acteurs majeurs qui se présentaient comme étant hostiles à Israël, ont été totalement perméables à l'infiltration des services secrets israéliens. Puisque, même si la guerre s'arrête aujourd'hui, et même si certains disent l'Iran a gagné ou l'Iran a résisté, tout de même, je veux dire, ils ont eu leurs élites qui ont été décapitées, ils ont eu un nombre incroyable de dirigeants tués, ils ont eu un nombre incroyable d'installations détruites. Et donc, il faut se garder, concernant les Iraniens, de crier victoire. Moi, ça m'amène à faire une lecture politique sur la légitimité des dirigeants et sur le fait qu'un régime qui se maintient par la coercition, par le refus de faire confiance à son propre peuple, tôt ou tard, il est confronté, si vous voulez, à l'absence de légitimité de manière concrète. C'est-à-dire que vous trouverez toujours des gens qui n'hésiteront pas un seul instant à trahir par vengeance, par refus de continuer à supporter ce type de régime. Et c'est ce qui s'est passé avec le Hezbollah, puisque tout de même, l'affaire des beepers, on est vite passé dessus, mais tout de même, les beepers qui explosent, ensuite le fait que Nasrallah soit repéré, alors comme je vous l'ai dit, ça a coûté la vie à des centaines de civils, mais néanmoins, c'est quand même le dirigeant numéro un du parti du Hezbollah. Et donc, ça amène à réfléchir. Ça devrait être les forces arabes au pluriel, les pays arabes, les mouvements pro-palestiniens devraient réfléchir à ce que coûte, in fine, le fait de ne pas s'appuyer sur une légitimité populaire, sur le fait d'exercer, je dirais, de la coercition à l'encontre de son propre peuple. La première fois que je me suis fait cette réflexion, c'est quand Saddam Hussein est tombé. J'ai bien connu l'Irak, c'est le pays arabe où le mot peur était le plus omniprésent. Non, je vous parle des années 70, 80, 90. C'est-à-dire, c'est un régime qui se présentait comme progressiste, laïque, résistant à Israël, mais qui, dans le même temps, a violenté son peuple d'une manière mais absolument incroyable, pour diverses raisons, faisant régner la terreur, la division, etc. Au premier choc exogène majeur, qui a été l'intervention américaine, ce régime est tombé. Et il est tombé, on commence à peine à avoir les informations, il est tombé parce que vous avez plusieurs généraux de Saddam Hussein qui l'ont trahi, qu'il y a plusieurs divisions de l'armée irakienne qui n'ont pas combattu, parce que les gens en avaient assez de ce régime-là. Donc moi, pour moi, si vous voulez, j'ai ouvert une parenthèse par rapport à ce que vous me disiez sur l'Iran, c'est que effectivement, c'est tout de même un gros prix que l'Iran a payé, qu'il continue à payer, même si je pense qu'il y a aussi l'autre effet, c'est que vous avez une grande partie de la population qui aujourd'hui sait bien que l'Iran est au milieu du gué et qu'on n'accepte pas de bonne grâce d'être bombardé. Donc il y a une capacité de résilience dans la base qui soutient le régime qui est assez importante. Alors effectivement, il y a aussi le gap technologique. Je veux dire que Israël, c'est les États-Unis en termes technologiques. Ils ont les meilleurs armements du monde, ils ont une aviation qui peut faire ce qu'elle veut. Il n'y a pas de bataille aérienne, il n'y a aucun pays dans la région, peut-être un peu la Turquie, mais aucun pays de la région ne peut aligner une aviation qui puisse résister, en tout cas qui puisse empêcher les avions israéliens de bombarder. Donc effectivement, pour l'Iran, la situation est compliquée et ça l'oblige à se battre dos au mur. Et donc effectivement, la survie du régime, la question palestinienne, elle n'est pas sur la table. Peut-être la survie du Hezbollah est-elle sur la table, puisqu'on a vu que les Iraniens ont demandé que l'accord de paix englobe le Liban, ce qui ne leur a pas été d'ailleurs accordé. Bon, ça a débouché sur l'échec des négociations du premier round. Mais en tous les cas, les Palestiniens ont toujours été, comment dire, les derniers sur ce type de conflit. Je reviens à Saddam Hussein, dans la guerre du Golfe de 91, quand il envahit le Koweït, il fait semblant de revendiquer la cause palestinienne. Donc en Palestine, dans les territoires, les gens sont enthousiastes. Mais en fait, dès lors que sont arrivées les négociations, bien entendu, la question palestinienne, c'est les Américains qui ont repris le dossier en main, qui ont organisé les rencontres de Madrid, etc., et puis Oslo. Et c'est jamais l'acteur arabe. Et ça a commencé très tôt, même l'Égypte. Quand Sadat va négocier avec Begin, enfin négocier c'est un verbe trop fort, quand il va faire la paix avec les Israéliens, il a quelques phrases pour les Palestiniens, mais en réalité il n'obtient absolument rien pour les Palestiniens. Il aurait pu négocier pour eux, c'est-à-dire ça aurait pu être un moment charnière dans la négociation avec les Israéliens, mais il a abandonné lui aussi les Palestiniens pour des intentions, pour des questions strictement internes de bénéfices nationaux. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le monde arabe a vraiment, au-delà de ce que pensent les opinions publiques, de ce que pensent les peuples, qui sont vraiment, c'est une question charnelle pour eux, et en réalité, les régimes arabes sont incapables aujourd'hui de peser sur cette question. Ils pourraient peut-être demain, mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Bonsoir. J'ai quelques petites questions. Donc, je voulais savoir si la France continue à livrer des armes en Israël et si c'est des quelles entreprises et quel type d'armes. Et après, je me demandais est-ce que l'Égypte a réouvert ses frontières. Et surtout, je voulais savoir Bon, je vous dirai après, j'ai un trou.
Alors, je vais être...
Le décret là, qui vient de passer sur la peine de mort oui. Des Israéliens.
D'accord.
Des Palestiniens.
Sur les armes, je vais être très franc avec vous. Ce n'est pas un dossier que j'ai travaillé. Je lis comme vous la presse. Voilà, donc il y a une grosse polémique là-dessus. Il y a tout de même un certain nombre d'ONG françaises qui continuent d'accuser le gouvernement français de livrer des armes, ce dont se défend de les autorités françaises, mais on en est là. Oui, il y a un papier qui donne des choses. Alors, c'est des composantes. Hein, c'est pour le plus souvent, ça concerne des composantes. Et donc, le gouvernement français peut jouer sur les mots en disant que ce n'est pas de l'armement, c'est des composantes. Mais enfin, on voit bien qu'il y a tout de même une situation, je dirais, assez obscure et entretenue par les autorités françaises sur cette question-là. Sur l'Égypte, non, la frontière, elle est fermée. L'Égypte, dès le début, et depuis toujours quasiment, a toujours été le gardien, le verrou du Sinaï, ce que ne veut pas le maréchal Sissi, ne veut pas de communauté palestinienne dans le Sinaï, parce qu'il sait très bien que c'est, pour sa stabilité, un danger. Parce que s'il accueille 20 000, 30 000, 100 000, 200 000 Palestiniens, il a en tête ce qui s'est passé au Liban, en Jordanie, il y aura des camps palestiniens, il y aura forcément de la résistance palestinienne qui va naître dans ces camps, qui va essayer de mener des actions en Israël, qui va inspirer des actions de résistance par rapport chez les opposants au régime actuel égyptien. Et donc de cela, Sissi, il n'en veut absolument pas. Ce qui est réel, par contre, c'est qu'en Égypte, vous avez une grosse inquiétude. C'est-à-dire que c'est des gens qui, jusqu'à présent, estimaient que la paix avec l'Égypte, avec Israël de Sadat, ça avait, d'une certaine manière, contribué positivement au développement de l'Égypte. Ça avait assuré une espèce de stabilité, ça avait rehaussé la fierté parce que, certes, le monde arabe avait insulté l'Égypte à l'époque, mais ça avait permis aux Égyptiens de récupérer le Sinaï. Aujourd'hui, dans les réflexions chez les élites égyptiennes, c'est de se demander ouvertement, aujourd'hui il y a eu quelques papiers dans la presse égyptienne ou sur les réseaux, même si c'est très prudent, les Égyptiens se demandent s'ils n'ont pas intérêt aujourd'hui à réarmer massivement, parce que se disant qu'avec des voisins pareils, qui font la guerre déjà à 9 pays, peut-être que l'Égypte pourrait être le 10e. Et encore une fois, la question du Sinaï, elle n'est pas du tout négligeable. Ce qui se passe avec et ça va m'amener à parler de la peine de mort. On a quand même des gens au pouvoir en Israël qui ont toujours fait ce qu'ils ont dit. Et ils disent qu'ils veulent le grand Israël. Et on fait semblant de dire, mais ma foi, non, mais non. Ils ont dit, on va détruire Gaza, ils ont détruit Gaza. Ils ont dit, on va raser le sud du Liban, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont dit, le Golan nous appartient, mais on veut un peu plus pour des raisons de profondeur stratégique. Eh bien, c'est le cas. Donc, on a affaire à un pays dont les frontières évoluent et qui, demain, va peut-être dire bah, le Sinaï, c'est important, c'est le lieu de la révélation, c'est là où les Hébreux ont été emmenés, c'est dans la Bible, c'est à nous. Et face à ça, beaucoup d'Égyptiens disent il va falloir peut-être réarmer. Je rappelle que le Sinaï est une zone démilitarisée où les Égyptiens n'ont pas le droit d'avoir des armements lourds. Mais demain, on peut avoir des tensions aussi sur cette question-là. Et pourquoi je vous dis qu'il faut toujours écouter ces gens-là ? C'est-à-dire que l'idée d'une peine de mort uniquement destinée à des Palestiniens, elle n'est pas nouvelle. On la retrouve de manière récurrente dans les discours de la droite, voire de l'extrême droite israélienne, très tôt, les années 50, ensuite pendant la première intifada, la deuxième intifada. Et donc là, ils ont réussi leur coup. Alors effectivement, il y a quelques entraves, je dirais, juridiques et constitutionnelles, mais en tout cas, la loi a été votée. Et j'aimerais simplement vous signaler que c'est la première, dans l'histoire de l'humanité, enfin l'histoire moderne de l'humanité, il n'y a vraiment que 3 cas où dans un pays, on a des peines de mort qui ne s'appliquent qu'à un segment particulier de la population. La première fois, c'est dans les États du Sud, des États-Unis. C'était la pendaison réservée aux Noirs pour certains crimes. C'est-à-dire qu'en grosso modo, si ces crimes étaient commis par des Blancs, ce n'était pas le cas. On a ensuite ce qu'ont fait les nazis, et on a cette fois-ci cette peine qui jouit d'une incroyable indulgence de la part notamment de l'Europe, qui pendant très longtemps a a eu une diplomatie où l'idée de faire combattre la peine de mort, c'était l'une des valeurs des Européens. Et là, il y a un silence radio total. Je rappelle qu'il y a un accord d'association qui lie Israël à l'Union européenne et que pour signer cet accord d'association, il faut s'engager, en tous les cas, l'un des points essentiels, c'est que vous ne devez pas mener des exécutions. C'est pour ça, par exemple, que vous avez les pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, où la peine de mort existe encore, elle n'a pas été abrogée comme ça a été le cas en France. La peine de mort n'est pas abrogée, elle est encore dans les textes. Vous avez encore des gens qui sont condamnés à mort pour parfois des questions de terrorisme. Simplement, dans ces trois pays, il n'y a pas eu la moindre exécution depuis le début des années 90. Pourquoi ? Parce que ces trois pays ont signé un accord d'association, comme Israël, avec l'Union européenne, et qui se sont engagés sur ce point-là, et que ça a été une victoire pour tous ceux qui combattent la peine capitale dans les pays du sud de la Méditerranée. Mais sur cette question-là, l'Europe, là, pour le coup, est totalement silencieuse. Et il y aura, parce que Ben Gvir y tient, parce que politiquement, c'est une manière pour lui de renforcer son aura auprès de son électorat, il y aura des exécutions. Ils vont le faire, puisque plus personne ne le leur interdit. Ils le feront.
Mémodio, une mémoire sonore.